Lambadoudou qui accélère, Lambadoudou qui termine, Lambadoudou est champion du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga.
Has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune pour une cinquième saison. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouvez toujours nos podcasts sur l'application Cause Commune, mais aussi, c'est une nouveauté, sur Apple Podcast. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Pour cette nouvelle saison, vous pourrez continuer à nous écouter le troisième samedi du mois à 10h. L'émission sera rediffusée le dimanche à 17h. À la réalisation, nous retrouvons Olivier Grieco avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance. Mais la nouveauté vient du parrainage de notre émission. C'est l'association Match for Green, engagée sur le développement durable et la responsabilité sociétale des organisations dans le sport, qui sera notre tout premier parrain. Ce parrain des quatre premières émissions de cette saison n'a pas été choisi par hasard dans le contexte des événements de ce mois de novembre avec la COP27 et la Coupe du Monde au Qatar. Merci beaucoup à Match for Green pour sa confiance. Cette émission abordera d'ailleurs ces événements et leurs enjeux. Elle s'intitule « Sport et responsabilité ». Responsabilité au pluriel, bien sûr. Nous ferons un focus sur l'éco-responsabilité dans le sport, en revenant notamment sur les états généraux Sport Planète qui se sont tenus les 18 et 19 octobre derniers. Nous parlerons de gouvernance, de responsabilité des différents acteurs quant au respect des droits humains, quelles sont les responsabilités du sport, des organisateurs, des participants, des supporters. La lettre des Bleus promettant un fonds de dotation pour des actions à impact social publiée juste avant leur décollage est-elle une réponse satisfaisante aux polémiques? Pour répondre à ces questions, trois invités avec nous en studio. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Arnaud Gandet. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Tu es président de Match for Green, tu auras l'occasion de nous le présenter, tu pourras nous parler du parrainage également bien sûr, mais tu es aussi responsable de Team Oxy chez Oxygène Sport. Administrateur de Rénovons le sport français et tu viens de te voir confier une nouvelle mission de la part du ministère des Sports et du ministère du Travail pour fédérer des clubs engagés dans le sport et par le sport. Tout ça est juste ?
Exactement.
Et nous sommes heureux aussi de recevoir avec, enfin j'allais dire, dans notre studio, Didier Le Hénaff. C'est du Brésil que tu étais intervenu dans la troisième émission Vivons Sport en juillet 2018, émission sur sport et développement durable déjà. Bonjour Didier.
Bonjour.
Je rappelle que tu es fondateur de SV Planète, fondateur de Colibri et compagnie, concepteur des Eco Games. Donc depuis 20 ans, tu cherches par l'associatif, l'entrepreneuriat, l'événementiel à faire avancer cette cause environnementale dans le sport et par le sport. Et tu es enfin conseiller consultant de Sport Planète. Là aussi, on a tout bon ?
Oh, c'est parfait.
Et nous avons la chance d'accueillir Sabine Gagné, responsable du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International France. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Avec toi, nous parlerons des droits humains au Qatar, des droits des ouvriers migrants sur les chantiers de cette Coupe du Monde, de la manière dont Amnesty International s'est mobilisée depuis 10 ans sur cette question et continue à agir. Mais comme promis, on va commencer par notre parrain, Arnaud. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Match for Green dans un premier temps? Pourquoi ça a été conçu, quand, etc.
Merci Karine. Alors peut-être qu'on pourrait aussi changer, on pourrait être une marraine pour changer. Tu vois, on a toujours dit c'est masculin, mais... Match for Green est une association, donc soyons la marraine de l'émission.
On prend aussi.
Match for Green, c'est une association qu'on a créée en juin 2020, qui a comme objectif de former et de sensibiliser tous les acteurs du sport aux enjeux du développement durable, avec un prisme qui était au départ de faire prendre la parole à tous ceux qui y sont déjà engagés, en se disant que peut-être sur une dynamique commune, on allait pouvoir convertir... un grand nombre d'acteurs à passer à l'action. Et puis on s'est vite aperçu que ces acteurs qui avaient envie de passer à l'action étaient souvent confrontés à la problématique de la compétence. Et donc, organiser des sessions de formation qui leur permettent de s'acculturer à ces sujets-là, d'acquérir de l'expérience, était nécessaire. Donc Match for Green, c'est grosso modo trois piliers. C'est un pilier de sensibilisation à travers des moments de formation, enfin de sensibilisation auprès de collectivités, auprès de fédérations, auprès de ligues, de comités et de clubs, pour justement faire prendre conscience de l'urgence à passer à l'action. C'est un bloc de formation qui permet, à travers maintenant une centaine d'heures de contenu de formation, à la fois de contenu générique, mais aussi de contenu un peu plus spécifique sur des thématiques, d'acquérir de la compétence pour justement mettre en place une vraie stratégie sur son territoire et auprès de sa communauté. Et puis le dernier bloc, c'est un bloc de, une fois qu'on a sensibilisé et formé les acteurs, c'est comment on arrive à convertir sa communauté à passer à l'action. Et donc c'est la mise en place de villages, la mise en place de challenges pour justement inciter tous les pratiquants au passage à l'acte.
Alors pourquoi être venu, non pas parrain, mais marraine de Vivons Sport?
Parce qu'on en parle souvent, on ne peut pas décorréler l'enjeu environnemental de l'enjeu social. C'est-à-dire que notre volonté à tous, en tout cas je l'espère, c'est de vivre dans un monde qui est un monde durable et responsable. Et bien évidemment, nous, on a une attention très forte portée sur les sujets environnementaux. Mais dans le cadre du développement durable, on s'attache aussi à parler, à engager nos acteurs sur des sujets sociétaux. Et donc c'est assez logique qu'on ne fasse pas des choix entre le social et l'environnemental et que le social vienne au soutien de l'environnemental comme l'environnemental peut venir au soutien du social. Donc très heureux d'être la première marraine de cette saison et j'espère qu'il y en aura d'autres surtout.
Encore une nouvelle fois, merci. On va passer donc sur le fond de nos préoccupations et Didier, toi qui es engagé depuis longtemps sur cette question environnementale dans le sport, est-ce que tu peux nous dire si ça avance, si le sport, parce qu'on a choisi d'intituler cette émission Sport et responsabilité, est-ce que le sport est victime, est-ce qu'il est responsable?
Ben, il est les deux, c'est-à-dire que si on fait une analyse froide de l'évolution du climat, des dérèglements donc climatiques au sens large du terme, mais aussi des terrains de jeu du sport, c'est-à-dire la géographie de cette planète, on se rend compte que quand on est un acteur du sport, nos terrains de jeu se dégradent et on en est les victimes au premier chef puisque l'air est de plus en plus pollué, les eaux le sont également, on souffre d'un réchauffement global de la température qui a des impacts considérables sur les conditions d'entraînement ou de compétition dans les stades, sur les surchauffes, les hyperthermies qu'on peut avoir quand on est en train de s'entraîner à l'extérieur, etc. Mais on n'est pas que victime en tant qu'acteur du sport, on est aussi coupable au sens où on contribue à cette détérioration de nos terrains de jeu par le fait qu'on produise des déchets en masse, qu'on se déplace énormément au niveau planétaire, notamment en avion, ce qui contribue donc à l'augmentation donc des gaz à effet de serre qui contribue au dérèglement climatique. Donc on est à la fois victime et coupable.
Et alors, deuxième question, donc est-ce que la cause avance? Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'on fait plus de choses? Est-ce qu'on le prend plus en considération?
Oui, en fait.
On peut être optimiste en gros.
En fait, je sais que je dois choisir mes mots à cet instant de nos échanges parce que j'ai coutume de dire.
Il n'y a pas de langue de bois hein, dans cette émission.
J'ai coutume de dire que le sport est génétiquement ancré dans le social au sens où c'est l'essence même du sport que de favoriser l'échange, les valeurs communes, etc. Que le sport s'est inféodé à la sphère économique. À partir des années 80, c'est le fameux M d'une chaîne de fast-food au fond de la piscine olympique à Los Angeles en 84. Et c'est la découverte très récente des impacts environnementaux du sport, puisque le premier bilan carbone d'un événement sportif, c'était la Coupe du Monde de rugby organisée en France en 2007. Donc il y a un retard historique de l'environnemental sur le social et l'économique, ce qui ne veut pas dire que tout va bien au niveau social, on est bien d'accord là-dessus. Et
justement, c'est vrai que je le rappelle de temps en temps.
c'est le cœur de cette émission aujourd'hui notamment. Mais c'est vrai que parce qu'il y a un retard historique, énormément d'initiatives ont été entreprises depuis une quinzaine d'années pour, dans un premier temps, faire prendre conscience aux acteurs du sport de ces impacts environnementaux. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, après 10 à 15 ans d'efforts, que l'ensemble des acteurs du sport sont conscients des impacts environnementaux du sport. Et donc, on en est à la deuxième phase maintenant, qui est la phase de responsabilisation. C'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une question d'outils, c'est une question de comment on s'y prend, avec quelle priorité, etc. Donc, mais la phase de la prise de conscience, on ne peut plus aujourd'hui dire qu'on n'était pas au courant.
Alors, pourquoi ces états généraux? Est-ce que c'était pour passer, justement,
exactement,
de la prise de conscience à plus d'efficacité?
Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le calendrier national, international débouchait sur ces états généraux, en ce sens qu'il y a quelques semaines, un grand rendez-vous en France, par l'intermédiaire de la climatologue Valérie Masson-Delmotte, avait fait le constat qu'il n'existait aucun espace dans lequel les acteurs du sport pourraient échanger et construire la feuille de route des années à venir. Et bien justement, quelques semaines plus tard, nous organisions ces états généraux Sport Planète qui ont pour ambition d'écrire la feuille de route du sport responsable de demain. Et donc, c'est pour ça qu'on les a bâtis. On a mis un an à les préparer avec des angles d'attaque très différents et complémentaires qui vont déboucher dans les mois qui viennent sur la production d'un manifeste Sport Planète.
Alors, tu dis ça va être la feuille de route du sport, mais ça n'a pas été monté comme on en a l'habitude par ou le ministère des Sports ou le comité olympique. Ou par les deux. Est-ce que c'est un choix ?
Oui. Et il nous paraissait important d'essayer de nous distinguer et de mettre l'ensemble des acteurs le plus à l'aise possible. On le sait, hein, l'univers sportif en France, mais dans d'autres pays également, est assez verticalisé, au sens où il y a effectivement des structures tout en haut, qui sont les fédérations nationales, qui sont le ministère des Sports, qui sont le comité olympique, et il y a tout un tas d'acteurs à tous les étages, jusque tout en bas, au niveau local. Et ce qu'on voulait, c'était créer un espace d'échange qui soit le moins langue de bois possible, d'où la structure même en fait de ces états généraux en trois temps, avec des conférences majeures qui permettent d'avoir une vision très transversale des problèmes, des tables rondes thématiques et des ateliers de travail. Donc les tables rondes thématiques permettaient de rassembler des acteurs sur des thématiques données, organisation d'événements sportifs, formateurs, sportifs de haut niveau, etc. Mais dans un troisième temps, nous avions des ateliers de travail où là, chacun des acteurs se réunissaient dans une salle et pouvaient débattre, faire avancer et produire du contenu qui a été ensuite rapporté en session plénière de synthèse à la fin de la deuxième journée.
Et alors, qui a participé, qui était invité à ces états généraux ? Tout le monde pouvait le voir, tout le monde...
Exactement. En fait, on avait mis sur pied un dispositif qui permettait... On avait bien évidemment en tête les problématiques de bilan carbone, puisqu'on a fait un bilan carbone transport de l'événement.
Et vous n'avez pas été aidé, parce qu'il y avait une grève des transports ce jour-là.
Oui, ce qui a été assez spectaculaire, effectivement. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça a permis de maximiser la présence de franciliens dans la salle. Et on avait mis en place un système de streaming, donc avec la possibilité de suivre l'ensemble des interventions à distance, et on a aujourd'hui un replay qui permet donc de faire profiter un maximum de personnes de l'ensemble de ces échanges, et donc la manière dont on s'y est pris a permis de raisonner sur les typologies d'acteurs et aussi sur la provenance géographique de ceux-ci. Donc en fait, on avait dans la salle, je crois qu'il y avait 21 fédérations sportives représentées, et là je parle des comités de directeurs de fédérations, soit président, secrétaire généraux, etc. On avait des comités départementaux olympique, on avait des clubs, on avait des organisateurs, des sportifs de haut niveau, etc., des médias du sport, des partenaires économiques du sport. Donc on a entre guillemets réussi notre coup, au sens où on a permis la rencontre de gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés.
Alors à propos, Arnaud, toi tu as l'occasion de rencontrer Didier, mais peut-être que tu as rencontré des acteurs que tu avais moins l'occasion de rencontrer. Qu'est-ce que tu as pensé ? Match for Green était partenaire de ces états généraux. Qu'est-ce que Match for Green y a fait et quel est ton ressenti ?
Alors, le premier sujet, la première vertu pour moi des états généraux, c'était de pouvoir rassembler au même endroit, au même moment, tous ceux qui sont engagés dans cette cause-là. Et on est de plus en plus nombreux, Dieu merci, à parler de cette thématique-là. Mais on a très peu l'occasion de se réunir. Et donc, c'était déjà cette première occasion de se réunir, d'échanger tous ensemble et de réfléchir au fait que d'abord, un, il n'y a pas de concurrence dans ce sujet. On est tous complémentaires et on a tous le même objectif. Donc, c'était très intéressant de se nourrir des bonnes pratiques des uns et des autres et de construire aussi des projets de collaboration. Donc ça, c'était le premier sujet. Nous, on est intervenu notamment sur le volet de la formation, forcément, avec un prisme qui est essentiel. C'est il ne s'agit pas non plus de convertir des convertis. C'est-à-dire qu'on est ceux qui étaient là étaient ceux qui avaient la plus d'appétence pour engager des démarches, et que notre volonté à nous, c'est d'aller chercher ceux soit qui sont un petit peu éloignés de ces thématiques-là et qui pour autant peuvent y avoir une appétence, parce que ceux qui sont des climato-sceptiques ou les autres, on a plutôt l'envie de les marginaliser. Donc voilà, comment on fait pour passer à l'échelle et comment la formation avec différentes cibles peut contribuer à ce passage à l'échelle. Donc on a beaucoup parlé de comment le volet de l'environnement peut être abordé dans le système éducatif français au niveau scolaire, comment dans le club chaque pratiquant et chaque éducateur soit formé sur ces thématiques-là, comment dans les cursus traditionnels de formation au métier d'éducateur sportif, eh ben, on intègre ces logiques d'environnement dans sa pratique. Enfin, voilà, on a essayé d'être le plus pragmatique possible avec cette visée toujours de dire comment on fait pour passer à l'échelle et accompagner plus en nombre.
Alors Didier, toi, ton ressenti, et puis tu parlais de l'empreinte carbone, est-ce que vous l'avez mesurée? Est-ce que tu sais aujourd'hui ce qu'il en est?
Oui, bah, mon ressenti, il rejoint celui d'Arnaud, c'est-à-dire qu'on a réussi quelque chose de difficile, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui se posent des questions concernant l'éco-responsabilité au sens le plus large du terme, donc j'inclus vraiment à la fois les problématiques sociales, sociétales et économiques, la gouvernance, etc., on a réussi à les rassembler, à les faire se rencontrer. Et donc, on le voit bien, il y a une explosion d'échanges à l'heure actuelle entre ces différents acteurs qui montrent qu'au moins on a servi à quelque chose à ce niveau-là. Et puis, il y a des projets qui sont en train de voir le jour, dont vous entendrez parler les uns et les autres très rapidement. Et effectivement, oui, on a fait un bilan carbone qu'on est en train de finaliser juste sur les transports. Et effectivement, c'est d'ailleurs intéressant parce que ça reflète la réalité de ce qu'est un événementiel. Donc, nous, dans le monde du sport, on parle d'événementiel sportif, mais quand on organise une conférence, un concert, on est exactement dans les mêmes logiques. Et en fait, on était très, très fiers de ce bilan en carbone qu'on est en train de finaliser. Et il y a juste une petite ombre au tableau. J'en suis désolé pour la personne, mais qui est venue de Guadeloupe pour participer aux États généraux. Et elle nous double le bilan carbone de l'événement avec son déplacement en avion. Donc, ça, c'est la réalité concrète.
Ça nous permet de comprendre l'impact d'un tel vol.
Exactement. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de rebondir sur la thématique Qatar. Tout à l'heure, on en parlera, j'imagine. Mais je n'en parle pas tout de suite concernant les transports. Mmh. Juste les transports.
On va parler bientôt de la suite de cet événement, de la COP du Qatar. Mais on va d'abord faire une pause musicale et ce sera avec le choix d'Arnaud. Alors, est-ce que, Arnaud, tu te rappelles du choix que tu avais fait?
C'est une question piège.
Non, je peux te le rappeler.
C'était pas Yannick Noir?
C'était Yannick Noir.
Je m'en souviens bien.
C'était Aux arbres citoyens de Yannick Noir. Je pense que là, on n'a pas besoin de trop d'explications.
Oui, voilà, chacun porte cette responsabilité de vivre dans un monde plus responsable.
Donc on écoute Aux arbres citoyens de Yannick Noah.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses, citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission s'intitule Sport et responsabilité. Nous sommes toujours en studio avec Sabine Gagné, responsable du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International France, Arnaud Gandet, président de Match for Green et responsable de Team Oxy chez Oxygène Sport, et Didier Le Hénaf, conseiller consultant Sport Planète, engagé depuis une vingtaine d'années dans l'éco-responsabilité dans le sport. Alors, on était sur les états généraux et comme promis, est-ce que tu peux nous dire quelles suites vont être données on a parlé de feuilles de route.
Effectivement.
Mais il y a déjà des choses.
Oui, effectivement, on est en train de rédiger les actes de ces états généraux, qui est la version écrite de l'ensemble de ce qui s'est dit à l'oral, aussi bien en session plénière que dans les ateliers. De ces actes, nous allons extraire les idées forces, les phrases clés. Donc, ce sera un manifeste. Donc un document beaucoup plus court, très punchy, qui pourrait un petit peu égratigner, parce que l'objectif, c'est effectivement d'enfoncer des portes tout sauf ouvertes et de faire évoluer les pratiques dans tous les secteurs. Je me souviens d'échanges assez intéressants concernant les partenaires économiques du sport, concernant les médias, le changement de discours qu'on doit avoir dans les médias, et des crispations dans la salle sur par rapport aux exposés de certains intervenants. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses, notamment au niveau des médias, et parce que les discours convenus...
Cause Commune était là, donc attendu.
Donc voilà. Et puis bien évidemment, là on est au niveau des discours, mais les discours doivent s'accompagner de mise en œuvre. Ce qui me donne l'occasion de vous parler, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus tôt, du mouvement Sport Planète, en fait, qui est un mouvement au sens physique également du terme. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir un partenaire qui est la Maïf, qui nous accompagne depuis 3 ans et demi et qui nous permet d'avancer dans tous les secteurs, aussi bien au niveau académique, c'est-à-dire de la formalisation des contenus que des mises en œuvre sur le terrain à travers des rendez-vous Sport Planète, à travers des challenges, à travers etc. Et on a énormément de projets sur le terrain qui sont prévus. Juste pour rappel, conjointement à l'organisation des états généraux Sport Planète des 18-19 octobre, on a eu le tour d'Île-de-France de Xavier Thévenard, un des plus grands ultra-trailers de la planète, qui a fait le tour par 4 moyens de locomotion de l'Île-de-France, 250 km en 3 jours, pour alerter sur la fragilisation de nos espaces naturels et sur la nécessité de maintenir des corridors écologiques. Et c'était le pendant jambe de la tête qu'on avait eue au cours de ces états généraux. Donc on aura un grand nombre d'événements concrets sur le terrain sur une thématique qui risque d'être notamment celle de l'eau en 2023, bien commun, bien précieux et qui est malheureusement trop malmenée aujourd'hui.
Et on peut déjà voir des choses, des replays.
Oui, alors malheureusement, je n'ai pas le lien en tête, mais si vous allez sur états généraux Sport Planète replay, vous tomberez dessus forcément.
Je pense, et on les mettra sur nos réseaux sociaux.
Super.
On a parlé de la COP27, alors il y a eu la COP21 à Paris, on s'en souvient, dont on parle et reparle. On est aujourd'hui à la COP27. Pour vous, alors je ne sais pas si c'est Arnaud, Didier, Arnaud peut-être, quelle place le sport occupe dans ces discussions, dans ces grandes conférences ?
Alors, je ne veux pas rentrer dans un débat un peu trop politique, mais d'une manière générale, je trouve que le sport a cet avantage de parler au plus grand nombre. Et donc, l'incarnation des messages de notre société par les sportifs et dans le monde du sport est le meilleur outil pour pouvoir transmettre ces informations. Donc, j'écoute tout ce qui se dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage à l'acte et c'est le volet opérationnel. Et dans le volet opérationnel, je trouve que le sport doit prendre sa part du chemin. Les sportifs doivent prendre leur part du chemin en termes d'incarnation des messages. Et ça pose aussi des questions, bien sûr, de comment on accompagne les sportifs pour qu'ils en parlent correctement et que, dans leur propre pratique au quotidien, on puisse éviter aussi quelques aberrations.
Oui, moi je voudrais intervenir pour compléter ce que tu dis, Arnaud. Effectivement, je me souviens d'une étude faite aux États-Unis il y a quelques années qui disait que 17% des Américains s'intéressaient à la science et 84% au sport. C'est peut-être pas, même si au-delà de la véracité des propos distillés par les rapports du GIEC et par les experts du GIEC qui sont des personnes fantastiques, pour faire passer un message auprès du plus grand nombre, l'outil que constitue le sport est sous-utilisé. Pour répondre très précisément à la question, le sport est totalement absent des problématiques des COP. Dans les COP, on est entre grandes personnes, c'est-à-dire on est entre décideurs politiques qui décident de tout et de rien, et le passage à l'acte, il n'est pas derrière. Alors que nous, dans le monde du sport, on est dans le monde de l'action. Donc moi, j'aimais cet appel qu'on fasse confiance au sport pour aller sur le terrain et partager les messages qui sont annoncés par les rapporteurs du GIEC notamment. Et pour rappel, aux États généraux Sport Planète, le premier intervenant était François Jomaine, qui est un des rapporteurs majeurs du GIEC. Et donc l'idée, c'était justement de montrer quels sont les discours du GIEC pour ensuite, dans un deuxième temps, les transposer de manière didactique et pédagogique dans les discours du sport.
Et justement, le GIEC dit quoi par rapport aux les rapports du GIEC? On en avait déjà parlé sur cette émission, sur des émissions spécifiques, sur les enjeux environnementaux par rapport au sport, de la mer, de la montagne. Qu'est-ce que disent les rapports du GIEC par rapport au sport? Ils l'abordent, ils parlent du littoral, ils parlent de la montagne,
oui,
forcément.
Enfin,
mais eux, c'est plus global.
Oui, mais sans rentrer dans les détails, il y a un très bon rapport qui est sorti sous les auspices du WWF France en 2021 qui montre quel est le monde du sport à plus 2 et plus 4 degrés. Et on voit très clairement que si on prend le monde de la montagne, il y a 50 cm de manteau neigeux perdu en 50 ans, que d'ici 2050, il n'y aura quasiment plus aucune station de sport d'hiver qui pourra s'appeler sport d'hiver. On devra les appeler sport de montagne. Si on prend le littoral avec la montée des eaux, bah c'est très simple, relocalisation, par exemple, des clubs de voile, puisque le niveau de l'eau montant, les clubs de voile vont être délocalisés ou relocalisés. Si on prend l'exemple des gymnases, plus de 50% des gymnases ont été construits avant 1987, donc sont totalement inadaptés à une augmentation des températures, donc se posent des problèmes concrets.
Ça montre que tous les sports sont concernés, et pas seulement ceux de outdoor.
Complètement. Tous les sports sont concernés. Tous les acteurs du sport sont concernés et tous les terrains de jeu du sport sont concernés.
Tous les citoyens aussi.
Exactement.
Justement, Sabine, est-ce que Amnesty International se mobilise sur cette question des enjeux environnementaux? Quelle est sa position?
Tout à fait. Alors, Amnesty International est de plus en plus engagé sur la question de la crise climatique. Alors, on ne devient pas pour autant une ONG environnementale. On reste dans notre mandat de nous occuper des droits humains. Mais justement, on défend le message comme quoi la crise climatique a un impact sur les droits humains. Parce que quand on parle dérèglement climatique et avec tous les phénomènes météorologiques exacerbés par ce phénomène qu'on observe, il y a des véritables impacts très concrets sur les droits des personnes. Et donc, ça peut aller du droit à la vie, par exemple, quand il y a des typhons, des tempêtes extrêmes, du droit au logement, du droit à l'alimentation, du droit à l'eau. Mais il y a aussi des impacts sur les inégalités, parce qu'on sait que ce phénomène climatique, il exacerbe des inégalités et des marginalisations qui sont déjà existantes. Et il accroît les discriminations même entre les femmes et les hommes. On sait que dans certaines régions déjà aujourd'hui, c'est les femmes qui sont plus impactées par le réchauffement climatique parce que c'est elles qui vont cultiver des surfaces de terre qui permet des subsistances à l'échelle d'une famille. On sait que les peuples autochtones sont particulièrement impactés parce que leur environnement dont ils vivent très directement est particulièrement impacté. Donc il y a tous ces droits qui entrent en jeu, et c'est ça que Amnesty veut défendre, c'est les droits humains doivent être au cœur du débat sur l'analyse des causes de la crise climatique, et ils peuvent aussi être un outil pour s'attaquer aussi et trouver des solutions, parce qu'il y a un droit international qui existe, et on voit que d'ailleurs les droits humains sont pas mal mobilisés dans les contentieux climatiques aujourd'hui. En fait, on voit qu'on mobilise ces enjeux de droit à la vie, etc., pour essayer de responsabiliser les différents acteurs.
Il y a toutes les migrations qu'on peut prévoir aussi.
Exactement, oui.
Écoutez, on va parler justement de cette question de cohésion sociale, des droits sociaux. Je rappelle que François Jomaine, d'ailleurs, aux États généraux, a appuyé sur le fait qu'il fallait cette cohésion sociale pour pouvoir réussir le grand challenge qui était devant nous sur l'environnement. Nous allons d'abord faire une nouvelle pause musicale. Cette fois, ce sera le choix de Didier. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être serein pour la suite avec tout ce qu'on va dire? Donc, je crois que tu as fait un choix en fonction de ça.
Oui, moi, pour pouvoir rester zen dans ce monde en furie, j'ai l'habitude à la maison d'écouter les bruits de la nature. quand je suis en milieu urbain, et puis quand je suis à la campagne, ben j'ouvre les fenêtres. Donc on est en milieu urbain ici et on va écouter les bruits de la nature.
Alors on a rajouté un peu de jazz, mais ça, on va pouvoir rester zen et se reconnecter avant de parler de choses, de sujets un peu délicats. Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Au lendemain de la COP27 et à l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, notre émission s'interroge sur les responsabilités dans le sport et notamment dans les grands événements internationaux. Nous sommes toujours en studio avec Sabine Gagné, responsable du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International France, Arnaud Gandet, président de Match for Green et responsable de Team Oxy chez Oxygène Sport, et Didier Lehenaf, conseiller consultant Sport Planète, investi depuis une vingtaine d'années pour plus d'éco-responsabilité dans le sport. Alors là, on va commencer avec Amnesty, avec toi, Sabine. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans le domaine donc des grands événements sportifs, quel est le rôle d'Amnesty International ? Qu'est-ce qu'il fait depuis quand, au niveau international et national ?
Alors, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'Amnesty International intervient sur certains grands événements sportifs, mais à différents niveaux selon les situations et selon les événements, parce qu'il y a deux manières pour Amnesty d'intervenir et il y a différentes focales qui sont choisies. Soit c'est parce qu'il y a des violations de droits humains dans le pays et que l'événement, pour prendre un exemple récent, comme les Jeux Olympiques à Pékin en janvier dernier, eh bien, sont un moment médiatique et sont une opportunité médiatique pour mettre en lumière et révéler au reste du monde des violations existantes dans le pays, mais qui en réalité ne sont pas liées directement à l'événement sportif. Ou bien, dans le cas du Qatar, eh bien, il y a des enquêtes menées par Amnesty qui révèlent des violations de droits humains qui ont été causées en lien avec les conditions d'installation, de fabrication de l'événement lui-même. Donc, c'est les différentes modalités d'intervention d'Amnesty.
Alors, est-ce que vous êtes déjà intervenu avant qu'on parle du Qatar, par rapport à Pékin, Sochi
Oui, je pense que pour les précédents grands événements, je pense même au sujet foot, hein, la Coupe du Monde en Argentine en 78, Amnesty avait déjà pris la parole, Sochi, les précédents JO de Pékin également, donc en 2008, on s'était exprimé pour l'événement de Formule 1 au Bahreïn. Donc, il y a eu différents moments comme ça où Amnesty a pris la parole. Donc, on n'a pas de programme en soi, sport et droits humains, mais c'est vraiment, puisque le sport est un enjeu de société, c'est une attention particulière qu'a Amnesty, parce que ce qu'on regarde aussi, c'est la manière dont certains États qui violent les droits humains utilisent aussi ces événements sportifs pour redorer leur blason, donc typiquement la Chine, la Russie, le Qatar. En fait, on voit aussi l'investissement mis par des pays tels que ceux-ci pour s'acheter une bonne image à l'international. Donc, il y a énormément d'investissements pour montrer à la face du monde, par le biais du sport, que ce sont des pays respectables. Et nous, notre mission, c'est de révéler et de dénoncer en fait ces violations de droits humains pour que ce soit connu et qu'il n'y ait pas de greenwashing, comme on peut dire.
Alors là, on finit... Enfin,
ce serait du sportwashing, pardon.
On finit 2022 avec la Coupe du Monde au Qatar. On l'a commencé avec Pékin 2022, les Jeux d'hiver en Chine, où il manquait pas mal de neige, notamment. Notamment, Amnesty avait une action. Est-ce que le rapport avec le rapport Bachelet, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que ce rapport?
Tout à fait. Donc Michel Bachelet, qui était haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, a publié un rapport juste à la fin de son mandat, entre 13 et 15 minutes avant la fin de son mandat. Elle a publié un rapport sur les minorités musulmanes en Chine, en particulier la communauté ouïghour, pour révéler à nouveau donc, ce que des ONG avaient dit précédemment, hein, mais parce qu'elle avait fait une visite en Chine, et donc elle a pu dire, et le fait que ce soit les Nations Unies qui le disent, ça a une autre portée. Elle a pu dénoncer ces camps de soi-disant formation où en réalité sont internées des personnes musulmanes en Chine parce qu'elles sont de la minorité ouïghour et qu'elles sont rééduquées. C'est le terme des autorités chinoises à la culture majoritaire, et en réalité il y a des actes de torture, de sévices sexuels et puis d'emprisonnement illégaux et arbitraires dans ces camps d'internement. Donc ça a été à nouveau révélé et attesté par Michel Bachelet. Alors nous, ce qu'on avait fait juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est que on a fait un événement devant l'Assemblée nationale avec un podium. Donc on a recréé un peu l'image sportive. On a mis trois personnes sur un podium, et puis avec les médias qui sont tournés vers le podium, et puis juste à côté, là où ne regardaient pas les caméras, des personnes en combinaison bleue qui sont les habits des personnes, aussi bien ouïghours que kazakhs que kirghizes, parce qu'il y a différentes minorités qui sont enfermées dans ces camps d'internement. Et donc c'était une manière de dire que justement l'attention médiatique serait tournée vers le sport, mais que nous, notre mission, elle était de bien faire savoir, parce que ça passe par cette première étape de connaissance, de sensibilisation, qu'il y a des violations de droits humains en Chine, et qu'il y a de la discrimination, il y a de la torture, et ça, c'est trop peu connu, et justement parce qu'il y a un effort et un investissement tel de la part de la Chine pour cacher ça, qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir pour le dire à la face du monde.
Alors, merci. On va passer au sujet du Qatar. Je veux rappeler que ce n'est pas la première fois ici qu'on en parle. Hein. Là, on est juste avant la Coupe du Monde, mais on avait invité des experts en géopolitique, Carole Gomez, Jean-Baptiste Guégan, déjà pour nous parler de cette question il y a bien longtemps. Et avec aussi des athlètes avant les championnats du monde d'athlétisme dans ce même pays. Alors, on rappelle que c'est la première fois qu'une Coupe du Monde se jouera dans un pays arabe. Ça, c'est le côté international et positif. Maintenant, on ne veut surtout pas oublier tous les problèmes liés à cette Coupe du Monde. Alors, depuis quand Amnesty travaille sur ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez, en tant qu'Amnesty International, nous dire de ce sujet?
Alors, on travaille sur ce sujet depuis 2010, depuis l'année de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Le premier rapport est sorti en 2013, donc on avait pris trois premières années pour commencer à enquêter sur les conditions de travail, les conditions de logement, et donc les conditions d'exploitation de ces travailleurs migrants, qui était 1,1 million à l'époque, dans ce petit pays du Qatar qui est aussi grand que la Corse. Aujourd'hui, ils sont 2,2 millions. Et donc, ce premier rapport faisait déjà mention de responsabilité du Qatar et de la FIFA en tant qu'organisatrice du tournoi. Et on appelait déjà à l'époque à ce que la FIFA vraiment assume sa responsabilité.
Alors, je rappelle juste à nos auditeurs, parce qu'ils ne sont pas tous des experts en sport, que la FIFA, c'est la Fédération internationale de football, et je te redonne la parole.
Et la FIFA, étant une fédération internationale, c'est celle qui organise toutes les coupes du monde. Ils font par ailleurs 6 milliards de bénéfices, parce que c'est aussi, ils ont une activité commerciale. Et donc, ça, c'est important à rappeler, parce que de là découlent aussi des engagements et des responsabilités juridiques. Donc, c'est important de le savoir. Et donc, on avait alerté déjà à cette époque-là sur le fait que la FIFA manquait de certains mêmes cadres en matière de droits de l'homme, c'est-à-dire n'avait pas de politique droits humains à proprement parler. C'était un peu un angle mort, en fait, de leur leur pratique, d'où la nécessité de ramener ces enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux dans le sport, parce que c'était vraiment un angle mort. Donc, ils ont mis très longtemps à publier une politique droits de l'homme qu'ils ont dû publier en 2015 ou 2016. Donc, ils ont quand même mis minimum 5 ans pour s'engager sur le sujet. Et nous, depuis le début, notre demande, elle est que la FIFA mette la pression sur le Qatar, à qui on demandait de changer sa législation.
Est-ce qu'elle a changé sa législation ?
Alors après quasiment un rapport tous les ans depuis 2013, plus parfois certaines années des rapports spécifiques sur des sujets particuliers, sur par exemple les entreprises de sécurité ou sur les chantiers liés aux infrastructures autour de la Coupe du Monde, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur les stades, mais en fait nous ce qui nous intéressait aussi c'était toutes les autres infrastructures qui étaient liées à la Coupe du Monde, les hôtels, le métro, les villes, les bouts de villes qui sont sortis de terre pour la Coupe du Monde. Donc on a fait différents rapports sur différentes parties du sujet, on va dire. Et
donc, est-ce que la loi a changé ?
Et la loi, alors, elle a évolué grâce à cette attention médiatique et aussi au fait qu'on a révélé des témoignages très forts de personnes qui n'étaient pas payées, qui travaillaient des heures supplémentaires, donc à 10 à 16 heures par jour parfois, sans congé, etc. La loi a évolué, c'est-à-dire qu'il y avait ce problème de la kafala, qui était clairement identifié, donc au moins depuis 2010, qui présupposait un lien, donc une dépendance des travailleurs par rapport à leurs employeurs. Et les employés étaient tenus de demander l'autorisation à leurs employeurs pour changer leur emploi, quitter le pays. Il y a notamment des Népalais qui avaient voulu rentrer chez eux au moment du tremblement de terre et qui avaient été empêchés par leurs employeurs et qui n'avaient pas pu retrouver leur famille, même temporairement. Et donc ça, c'est un système de parrainage qui, en réalité, liait pieds et poings les travailleurs. Et ça, donc, ça a été progressivement annoncé. Donc depuis 2016-2017, il y avait eu des annonces et ça a été complètement aboli en 2020. Sauf que c'est tellement ancré dans les pratiques que il y a encore des passeports qui sont détenus par des employeurs et donc il y a encore ce système de dépendance dans la pratique. Les choses évidemment mettent du temps à changer, mais ce qu'on a dénoncé aussi, c'est que il y avait eu beaucoup d'effets d'annonce et que ça avait mis du temps à changer concrètement dans la loi et puis maintenant encore plus de temps à changer sur le terrain.
Alors on voit ce qu'Amnesty, la pression qui a été mise avec raison pour que le Qatar lui-même change ses pratiques sur la FIFA. Qu'est-ce qu'il en est des fédérations nationales qui, elles, donc, sont adhérentes à la FIFA, qui ont choisi aussi, qui choisissent le président de la FIFA, qui ont une voix au chapitre par rapport à l'organisation des événements. Alors,
nous, on veut ramener la coupe à la raison. Certains veulent la ramener à la maison et nous, on dit depuis le début de toute cette campagne, comme on l'appelle, qu'on veut ramener la coupe à la raison. Et c'est pour ça qu'on interpelle très fortement la Fédération française de football, parce que ça se joue à notre niveau en tant que structure française d'Amnesty France, parce que la FFF est membre de la FIFA. Et notre fédération est également membre d'un groupe européen de l'UEFA, donc le bureau européen de la FIFA, des fédérations, on va dire.
Fédération européenne. Ouais.
Fédération européenne. Et ils ont un groupe de travail sur les droits humains. Et donc, la FFF a véritablement un rôle à jouer d'influence auprès de ce groupe de travail européen et, in fine, auprès de la FIFA. Donc, il y a eu certaines déclarations, des engagements forts qu'on a salués de la FFF pour demander la création d'un fonds d'indemnisation à la FIFA. Et ça, c'est ce qu'on demande depuis plusieurs mois. On demande la création d'un fonds d'indemnisation qui irait directement aux travailleurs ou aux familles des travailleurs qui sont morts et dont les droits ont été bafoués au Qatar. Et ça, pour l'instant, il y a eu des effets d'annonce là aussi, mais il n'y a pas d'engagement concret de la FIFA pour le faire. Et la FFF n'est pas très claire sur, sur la manière dont elle met la pression sur la FIFA, puisqu'il y a eu récemment un communiqué de ce groupe de travail de l'UEFA pour demander la création de ce fonds d'indemnisation, et la FFF n'a pas été signataire de ce communiqué, donc le jeu qu'elle joue n'est pas très clair.
Alors, c'est pas la première fois, et la Fédération française de football, c'est compliqué. Là, c'est les dirigeants qui n'ont pas pris leurs responsabilités. On a entendu ces derniers jours beaucoup le sélectionneur faire la part des choses entre l'organisateur, les participants. Les Bleus ont écrit une lettre juste avant leur décollage pour proposer un fonds de dotation pour des actions à impact social. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça répond à la question? Notre émission est encore sur les responsabilités. On peut attendre quoi de qui?
Alors, en ce qui concerne les joueurs, cet engagement, cette déclaration des Bleus était bienvenue, elle était attendue, et ça a été une déclaration assez forte, déjà de reconnaissance, parce que c'est ce qu'on demande depuis longtemps aussi, c'est que les droits humains soient pas tabous dans le sport et qu'on puisse en parler, alors qu'il y avait un peu un silence radio aussi bien de la FFF que des joueurs sur le sujet. Donc c'est un premier pas du fait d'avoir reconnu ces enjeux droits humains et environnementaux dans leur lettre. Après, ils parlent d'un fonds de génération 2018 qui n'est il y a une zone d'ombre sur
pour quel impact si c'est effectivement pour les ouvriers au Qatar,
c'est pas mentionné. Donc on parle dans la lettre, il est question de financer des associations, des ONG qui travaillent sur les droits humains, mais et pour des causes qui leur sont chères, ou je ne sais plus quelle est la formule. Et ça, on n'a aucune idée de savoir si ces fonds iront aux travailleurs en question.
Est-ce qu'il y a eu de... Là, on a beaucoup parlé de la Fédération française. Est-ce que d'autres nations, d'autres fédérations, d'autres équipes ont eu des postures différentes?
Alors, avant de parler des autres fédérations ou équipes, une petite précision sur ce qu'on demande précisément à la FFF, c'est qu'on demande d'une part qu'ils mettent une pression sur la FIFA pour créer un fonds d'indemnisation et que on s'assure que les droits humains sont respectés au Qatar, mais on demande aussi à la FFF, en tant qu'utilisatrice des équipements sportifs et hôteliers au Qatar, qu'ils s'assurent que leurs prestataires respectent les droits humains. C'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance, et ça
qui n'a pas été respecté,
qui a été heureusement dénoncé par des journalistes et donc montré au grand jour à travers ce reportage de complément d'enquête. Mais on voit bien que la FFF n'a bougé et n'a mis fin au contrat qu'elle avait avec une société de sécurité uniquement parce que les journalistes avaient fait leur travail de dénonciation publique, et la nouvelle société de sécurité, ça a été révélé dans Marianne hier, en fait n'est pas mieux en termes de garantie de respect des droits humains. Donc on se demande comment ils ont mené leur enquête et quels audits ils ont menés. Et ça, c'est une question qu'on pose. Nous, on veut de la transparence aussi. On veut savoir comment ils ont identifié les différents prestataires, comment ils s'assurent que les droits humains sont véritablement respectés. Et effectivement, au niveau européen, en tout cas, il y a beaucoup de fédérations qui se sont très fortement engagées. La fédération belge, la fédération norvégienne, allemande, et ils ont eu des paroles très fortes, publiques, vis-à-vis de la FIFA. Il y a des équipes aussi qui sont très engagées. L'équipe australienne a fait une formidable vidéo extrêmement documentée, qui est très longue et qui vraiment...
Il faut aller la voir sur Internet, on la trouve facilement.
Et il n'y a pas de tabou en matière de dénonciation de ces violations, et chaque joueur s'exprime, et c'est une vidéo qui est très forte.
Ils se sont vraiment informés de ce qui se passait dans le pays. Maintenant, ils vont pouvoir jouer tranquillement leur compétition, mais avant, ils n'ont pas tourné le regard arrière.
Exactement. On sait qu'il y a des équipes, notamment l'équipe anglaise, qui va rencontrer des travailleurs migrants en arrivant au Qatar. La fédération belge a rencontré Amnesty, et les joueurs ont rencontré Amnesty pour être informés justement justement de la réalité sur le terrain. Et certaines équipes, là, plus récemment, en arrivant au Qatar, il y a l'équipe anglaise, l'équipe allemande, qui sont arrivées aussi avec leur avion redécoré avec la notion des engagements en matière de diversité. Et donc, il y a eu aussi l'équipe danoise ou norvégienne qui ont porté des maillots siglés Human Rights. Donc, il y a eu des engagements très forts des autres équipes. Et pour ce qui concerne la Fédération française, nous, ce qu'on nous a répondu, parce qu'on les a rencontrés, c'est que il fallait s'en préoccuper avant de donner la Coupe du Monde au Qatar et que maintenant, la priorité, c'était le sport. Et c'est aussi ce qu'a répondu Emmanuel Macron donc le 17 novembre, c'est qu'il ne fallait pas politiser le sport et qu'il fallait se préoccuper de ça au moment de l'attribution des compétitions. Or, nous, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est qu'il faut s'en occuper chaque jour, y compris après que la compétition ait été attribuée.
Est-ce que nos joueurs, nos équipes, nos gouvernements sont ennuyés parce que parler du Qatar, c'est aussi parler du PSG? Est-ce qu'on peut faire la distinction entre les responsables de l'un et de l'autre?
Alors, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'il y a des financements très importants. Le Qatar est un pays très riche, un pays gazier, pétrolier. Il y a beaucoup d'argent, donc ils peuvent s'acheter beaucoup de choses, y compris des clubs de foot en France, donc le PSG en particulier. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à tracer. Et puis, on n'est pas les seuls. Il y a eu maintes enquêtes sur des questions financières et puis aussi de corruption liées à l'attribution de la Coupe du Monde. Et ça, on n'a pas d'éléments, mais c'est évidemment une question qui se pose. Et puis, il y a les enjeux de tension aussi énergétique aujourd'hui. Il y a eu des contrats passés au niveau gazier entre la France et le Qatar qui lient géopolitiquement les pays, mais ça ne doit pas empêcher de dénoncer des violations de droits humains sous prétexte qu'il y aurait des accords commerciaux.
Dernier mot avant de passer la parole à Didier et Arnaud. Par rapport aux droits humains sur place, on a parlé beaucoup des ouvriers, des migrants. Est-ce qu'on peut rappeler des conditions dans lesquelles vivent les Qataris, les femmes Qataris,
les
questions LGBT?
Chaque année, dans le rapport annuel d'Amnesty, on fait un état des lieux des droits humains dans le monde, et notamment au Qatar. Donc la situation des personnes LGBTI est très en deçà des standards droits humains qui devraient être respectés. Et les personnes LGBTI sont criminalisées et les personnes ayant des rapports avec des personnes de même sexe sont passibles de 7 ans de prison, par exemple. Pour en ce qui concerne les droits des femmes, très concrètement, les femmes ne peuvent pas forcément travailler ou sortir sans une tutelle masculine. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ces aspects-là.
Alors, rapidement à tous les deux, par rapport et aux droits de l'homme, mais aussi à la question environnementale que pose sa candidature, on va en rajouter un peu puisqu'il a été décidé de faire les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite ces dernières semaines. La décision a été prise récemment. Un avis sur ces grands événements qui...
Moi, j'ai un avis global, c'est sur le modèle. C'est-à-dire qu'on parle de développement durable. Développement durable, c'est de l'environnemental, du social, de l'économique, de la gouvernance. Et on voit bien que le tabouret anatomique sur lequel le sport d'en haut s'assoit est un tabouret qui est complètement déformé au profit du pied économique. C'est-à-dire que la seule chose qui prime pour le sport d'en haut, un certain sport d'en haut, parce que toutes les fédérations sportives ne sont pas concernées, c'est il n'y a que l'argent qui compte, quoi. On le voit très très clairement dans la manière, dans la gouvernance des fédérations internationales, de certaines fédérations internationales. On le voit très clairement dans les conditions d'attribution des grands événements sportifs internationaux à tel ou tel pays. Il suffit de voir quels sont les pays qui ont accueilli les grands événements sportifs internationaux ces dernières années pour voir qu'on trouve la Chine, la Russie, le Qatar. Donc là, il y a un enjeu très clair au niveau de la réflexion et de notre projection dans le temps. C'est comment faire basculer cette hégémonie de l'économique dans les années qui viennent. Donc comment redonner sa place à l'environnemental, ou donner sa place à l'environnemental, pardon. Comment redonner sa place au social et comment faire exploser la gouvernance actuelle qui est insupportable, quoi. Il faut y aller, quoi, maintenant.
Je crois, Arnaud, que tu voulais insister que les enjeux étaient tels qu'on ne peut pas tous garder notre part de marché, mais qu'il faut se fédérer.
Oui, et puis ça pose la question, enfin, ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, ça pose la question de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on a pointé du doigt les sportifs, alors que ça arrangeait bien les dirigeants qu'on pointe du doigt les sportifs. Je veux dire, la responsabilité, elle est de l'ordre des dirigeants des fédérations internationales, mais comme tu l'as très justement dit, c'est bien évidemment les fédérations nationales qui sont aussi au centre du jeu. Donc je pense qu'il faut revoir la gouvernance du mouvement sportif d'une manière générale, que évidemment le pilier économique ne peut pas gommer tous les autres enjeux, et que ce que je vois de très positif dans cette affaire, c'est qu'on en parle beaucoup. On en parle peut-être beaucoup trop tard, ça je suis bien d'accord, que écoutez le président dire qu'il ne faut pas politiser le sport, oui, bien évidemment, mais en même temps, ça fait plus de 10 ans qu'on sait que ça va arriver, et donc et qu'il y a des rapports en plus qui ont déjà été transmis, donc il faudrait s'en soucier un peu. Mais ce que je vois de très positif, c'est qu'on en parle beaucoup, et que j'ai peut-être la faiblesse de croire que plus aucun événement sportif pourra être attribué comme ça, de façon aussi j'ai envie de dire entre têtes couronnées. Et que à la fois la pression de l'opinion publique, à la fois la pression des ONG et de tous ces acteurs-là vont réussir aussi à faire pencher un petit peu la balance. Donc plutôt un message positif en disant c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on mette aussi un vrai coup de balai pour que ces dirigeants qui ne pensent qu'à se faire réélire et à leur petit train de vie quotidien puissent dégager, pour qu'on ait des gens qui soient responsables et engagés dans une planète un petit peu plus vivable.
Moi, je rajouter deux points très courts. Le premier, c'est le fait que le sport, depuis 40 ans maintenant, est devenu un fait social total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le sport dans sa bulle, indépendamment de la société qui le produit, mais qui en même temps s'adapte aux messages qui sont portés par le sport. Donc il n'y a pas compartimentation entre ces deux univers. Ça, c'est le point numéro un. Mais la raison pour laquelle la compartimentation est encore préservée à l'heure actuelle, je pense que c'est ce qu'on appelle la sacro-sainte trêve olympique. C'est-à-dire que si on prend les textes fondateurs, le moment des Jeux olympiques est un moment où tout va bien, c'est la paix universelle et on ne doit pas traiter de sujets qui fâchent, quoi.
Oui, en même temps, on nous dit que c'est pour ça qu'on met les grandes compétitions dans des pays qui ont besoin d'avancer sur les droits de l'homme, c'est pour les faire avancer. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent.
Exactement.
On rappelle qu'il y a une pétition qui peut être signée
sur le site amnesty.fr, qui s'adresse justement à la FFF pour le demander de s'engager sur ces deux aspects, à la fois vis-à-vis de la responsabilité de la FIFA et de sa propre responsabilité vis-à-vis de ses prestataires. Et on attend des réponses claires de la FFF.
Merci à vous trois. On a parlé d'engagement des sportifs de haut niveau. Je voulais marquer notre solidarité par rapport à Fabrice Amedeo, qui est particulièrement engagé sur la question des océans. C'est à ce titre-là que nous l'avions reçu dans l'émission et dont le bateau a brûlé pendant la route du Rhum. Il est rescapé, heureusement, mais c'est un moment difficile à vivre, forcément. Et je suis bien d'accord que beaucoup de sportifs s'engagent aux autres de prendre aussi leurs responsabilités. Merci à nos trois invités, Arnaud Gordet, Didier Le Hénaff et Sabine Gagné. Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Dans la prochaine émission, à l'occasion de cette fin de cette Coupe du Monde au Qatar, nous continuerons à parler d'enjeux internationaux dans le sport, mais à l'approche des fêtes de fin d'année et pour être sur du positif, nous parlerons de solidarité internationale et de défense de la francophonie par le sport. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, vos remarques, vos questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous. À très vite.
Et l'Orbanodou qui accélère, l'Orbanodou qui termine, l'Orbanodou est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Attention. Saga Africa. Ambiance de la
Sport has the power to change the world. It has the power to unite people.